la ville du quart d'heure. Moi, je trouve l'idée superbe, qu'on puisse avoir tout proche et donc rendre la vie des gens simple. De toute façon, c'est une idée, tout mettre à 15 minutes, on peut imaginer un enfer comme on peut imaginer un paradis.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Deux heures pour humer l'air du temps, même quand cet air est vicié, saturé de particules fines qu'on doit évidemment en grande partie aux incessants voyages en avion de Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef globetrotteur. Qui, après Las Vegas à l'automne dernier, nous revient cette fois d'un week-end à Ibiza. Il a encore des tatouages au nez et les yeux rougis par les drogues. Bref, c'est en récupérant ses sextoys au comptoir bagages spéciaux de l'aéroport de Roissy que Cyril Lacarrière a découvert hier soir notre thème du jour. On va zoomer sur une notion cruciale pour lutter contre la pollution en zone urbaine, la notion de ville du quart d'heure. Et si la clé au problème de la qualité de l'air, c'était une ville où rien ne serait à plus de 15 minutes de marche ou de transport en commun? Cette ville existe déjà, Mathieu, j'en viens, ça s'appelle Ponto Combo, me disait Cyril. Alors oui, et des villes où tout se fait en 15 minutes de marche, ça existe, mais elles sont relativement petites. L'enjeu serait de faire des grandes villes, voire même des métropoles, des villes du quart d'heure. Alors, est-ce possible? Comment transformer des zones urbaines déjà denses et étendues en villes du quart d'heure? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Noël.
Quoi, même Ponto Combo, c'est pour eux?
Ah, Ponto Combo, c'est pas une ville de quart d'heure.
Ah, non,
quand j'étais ado, c'était pas ça. Non.
Ah, on fait pas un quart d'heure
il
tout?
Il fallait beaucoup marcher.
Très bien. Plus de détails tout à l'heure parce que je sens que nos auditeurs ont envie de savoir. Bon, bonjour Carlos Moreno.
Bonjour Mathieu Noël.
Merci
pour l'invitation.
Eh ben, merci à vous d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Carlos, vous êtes urbaniste. C'est vous qui avez imaginé le concept de ville du quart d'heure qui va nous occuper cet après-midi. On va voir d'ailleurs que c'est pas qu'un concept. Il y a déjà des applications concrètes. Vous allez tout nous expliquer. Je cite déjà votre livre, Droit de cité de la ville monde à la ville quart d'heure. C'est votre livre. Carlos, on va en parler. Juste le temps de vous présenter mes fidèles camarades, à commencer par celui qui, lui, a grandi dans la ville de la minute. Car elle existe. Elle s'appelle Alençon, en Basse-Normandie. Et là, en tout cas, quand vous avez 18 ans, tout ce dont vous avez besoin se situe à une minute. Le lycée, le kebab, le shopping et évidemment le Bayoko, ce nightclub devant l'entrée duquel Quentin s'est tant de fois entendu dire « Ah non, désolé, ça va pas être possible. Pourquoi? C'est les baskets, c'est ça? Non, c'est le blouson Valentino Rossi. » Bonjour Quentin, lui.
C'est pas faux parce que j'en avais déjà. Alors pas celui-ci. Ah, c'est vrai, plus jeune, oui, j'en ai eu.
Ça existait déjà à l'époque?
Mais il vient de cette époque.
Il vient dans notre âge. Depuis toujours, Quentin, la ville et votre terrain de jeu, on l'aura compris, chaque après-midi, vous faites réagir les passants à notre mot du jour.
Et je suis allé dans votre rue, Mathieu, quasiment.
Attention.
Est-ce que le 10e arrondissement est la ville du quart d'heure? Je suis venu en discuter avec vous dans ce micro-trottoir complètement à la rue et c'est tendu.
Comment ça s'est
tendu? C'est un sujet tendu.
Ah bon, bah, le 10e, moi je vous donne déjà la réponse. Hein. Le 10e est la ville du quart d'heure, il y a tout à moins d'un quart d'heure.
Oui.
Hein. Ah bah, juste en bas de chez moi, à deux minutes. Non. À vos côtés, Carlos Moreno, pour elle, Paris est déjà une ville du quart d'heure. Sa technique pour rendre votre rêve réalité, ne jamais franchir les ponts qui mènent à la rive gauche. Pas besoin de consulter une carte, c'est un ressenti, un instinct. Dès que les passants ne fredonnent plus Vincent Delerme, qu'ils ne se déplacent plus en vélo cargo avec des doudounes Patagonia, avec dans leur sac Reigns des sachets en papier recyclé ciblés Biocop, elle sait qu'elle n'est plus rive droite. Bonjour Manon Mariani.
Bonjour. Bonjour à tous et les habitants de la rive gauche, évidemment.
On les embrasse aussi quand même.
Bien sûr.
Manon, chaque après-midi, vous nous expliquez qui on doit suivre si on veut aller encore plus loin sur notre sujet du jour.
Un architecte ingénieur italien qui veut mettre la technologie au cœur de la ville.
Aux alentours de 16h30, nous découvrirons, effarés qu'hélas, tous les urbanistes ne sont pas aussi futés que notre invité Carlos Moreno, le Zoom Zoom Test portera sur les projets architecturaux les plus débiles de ces dernières années. Juste avant 17h, le fait que le sujet du jour soit l'urbanisme n'empêchera certainement pas Marine Leonardi de dégommer son conjoint, comme dans chacune de ses chroniques. Mais d'abord, Carlos Moreno, avant même d'expliquer en quoi elle consiste, est-ce que cette ville du quart d'heure, elle existe déjà quelque part?
Oui, bien sûr, déjà, merci pour l'invitation. En fait, ce concept est né il y a longtemps. J'ai commencé ma recherche en 2010. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, mais bien avant moi. Pendant pratiquement toute la période qui a été concomitante à la ville devenue une ville des voitures, il y a eu beaucoup d'urbanistes et des penseurs et d'acteurs de la ville qui ont voulu avoir une autre vision de la ville qui soit humaine, qui soit une ville dans laquelle fasse bien vivre, qui réinvente le voisinage, qui soit une ville beaucoup plus heureuse. Donc en fait, j'ai remis à jour des travaux menés pendant une centaine d'années par énormément de gens autour de la planète architecture et urbanisme. Et je l'ai mise à jour au 21e siècle, à l'heure de la pollution massive, de la omniprésence de la voiture comme modèle dominant. Donc, effectivement, les concepts étaient remis à jour parce que après le Covid, on a redécouvert la proximité. Mmh. Anne Hidalgo a pris ces concepts pour sa campagne électorale de 2020. À Milan, en Italie, le maire de Milan également, et beaucoup de maires dans le monde entier se sont rués sur ces concepts-là.
Alors, on va revenir sur Paris, on va revenir sur Milan pour voir si on se dirige vers la ville du quart d'heure, ou si, selon vous, on y est déjà. Face à vous, Carlos, un quart d'heure, c'est le temps qu'il lui a fallu ce matin pour réussir à allumer son ordinateur. Car était-il raisonnable, à bientôt 50 ans, de partir faire la nouba tout un week-end à Ibiza? Non. Alors il cherchait le mot de passe. Mrata Love. Non. King of Lacarzouz. Non plus. Puis il a enfin retrouvé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La journée pouvait commencer. Bonjour Cyril Lacarrière.
Étoile à la fin. Étoile.
Étoile. Non, il n'a même pas mis étoile, il s'en fout.
Trop compliqué l'étoile.
Comment ça va, mon petit Cyril?
En une forme éblouissante.
Mais oui, vous êtes plutôt en forme. Ouais. Je suis vraiment mauvaise langue.
C'est
comme
un
quoi,
peu
vous...
blanc quand même.
Non, sous les lumières. le mauvais éclairage de ce studio.
Cyril, dites-nous, la ville du quart d'heure, d'où ça sort?
Après les mots qu'on invente, nous, les mots inventés par notre invité. Vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est d'où ça sort deviennent un exercice délicat. Mais, cher Carlos Moreno, attention à ne pas tirer la couverture à vous, mais vous venez de le dire, vous faites une mise à jour de ce concept. Car effectivement, figurez-vous qu'au début du XXe siècle, aux États-Unis, un certain Clarence Arthur Perry avait initié ce même genre de travaux. Clarence Perry, c'est un urbaniste new-yorkais. Et en 1929, il publie une note sur l'unité de voisinage, la Neighborhood Unit en version originale. À l'époque, Clarence Perry explique que cette Neighborhood Unit est une réponse à la crise économique et à la révolution industrielle des années 1900. Deux facteurs de dégradation des conditions environnementales et sociales. Une note qui servira d'outil pour l'élaboration du futur New York. C'est sur ce modèle que les urbanistes de la ville installeront les logements, les rues, les entreprises, les services à la personne, etc. etc.
Alors, quels étaient les grands principes, Cyril, portés par ce Clarence Perry?
Eh bien, déjà, comme ce sur quoi repose votre travail, Carlos Moreno, sur une unité de mesure, le quart d'heure de marche. Et puis, il y a six grands principes, je vous en cite trois. Les grands artères ne doivent pas traverser les quartiers résidentiels, elles doivent plutôt délimiter ces quartiers. Les rues intérieures doivent être en cul-de-sac, tracées en forme de courbe et avec des revêtements légers pour favoriser une circulation calme, sûre et surtout rare. Et le point central du quartier doit être l'école élémentaire.
Exact.
Il suffit malheureusement de voir le New York d'aujourd'hui pour comprendre que tous ces principes n'ont pas été suivis à la lettre. Alors, est-ce que la ville du quart d'heure peut réellement exister? Est-ce que c'est réaliste à l'heure de la densification des métropoles? Qui sera sacrifié? Faut-il que les grandes villes cannibalisent leurs voisines? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci beaucoup Cyril. Carlos Moreno, est-ce que cette unité du quart d'heure, elle a été choisie un peu empiriquement? On s'est dit on va prendre un quart d'heure, on aurait pu dire 10 minutes, ou il y a une logique comptable au fait que c'est un quart d'heure qui
a été... Non, il n'y a pas de logique comptable. En fait, quand j'ai exprimé en 2016, après la COP21 à Paris, c'est-à-dire après les grands événements mondiaux pour les climats, j'ai dit qu'il faut qu'on ait des services qui soient pas trop loin de chez soi, mais pas tout à fait chez soi non plus. Et donc, les quarts d'heure, c'est l'unité. On attend toujours un quart d'heure. On dit, voilà, si au bout d'un quart d'heure, tu n'es pas arrivé, je m'en vais. Voilà, donc les quarts d'heure, c'est pas forcément de mon quartier. Voilà. Mais cette unité de mesure qui, en fait, est symbolique. Et la première chose que j'ai dit, c'est que peu importe le nombre de minutes, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la quart d'heure est devenue populaire dans le monde entier parce que j'ai adressé la haute densité. Mais j'avais développé aussi les territoires de la demi-heure, qui maintenant commencent à devenir très populaires.
Ne grillons pas les
étapes. La moyenne est faible densité.
C'est la deuxième partie de notre émission, le territoire de la demi-heure, Carlos.
Donc, on va dire juste que plutôt que la ville des quarts d'heure ou le territoire de la demi-heure, on parle des proximités heureuses.
Et alors,
Les proximités sont bienvenues.
Alors, il faut lister les six besoins qu'on devrait retrouver à un quart d'heure de chez soi. Il y a, bon, habiter, ça, c'est la base. Travailler.
Dans des conditions dignes, j'ai dit.
Ah oui, habiter, l'habitat
dans
digne.
Dans des conditions dignes.
Ça, c'est pas toujours gagné. Habiter, travailler, s'éduquer, se soigner, s'approvisionner et s'épanouir. C'est quoi s'épanouir?
S'épanouir, c'est profiter de l'espace public pour qu'on ait de l'air, de l'eau, de la végétalisation avec le moins de pollution possible ou alors non polluer. C'est que l'espace public soit également intergénérationnel, qu'il serve aux enfants, qu'il serve aux personnes âgées, qu'il y ait de l'équipement public. Et donc, qu'il ne soit plus omniprésent pour les voitures, 70% de l'espace public est utilisé par les voitures, dont moins de 27 personnes s'en servent.
Anne Hidalgo, elle se revendique de vos idées, mais est-ce que vous trouvez que Paris aujourd'hui, quand vous vous baladez dans Paris, ou peut-être même vous vivez à Paris, je ne sais pas, vous trouvez que c'est la ville du quart d'heure ou que...
Oui, bien sûr. Il y a eu une étude qui a été récemment publiée par un groupe des recherches internationales qui évaluait effectivement les bien-vivre dans les villes avec de la proximité. Mmh. Paris était très bien classé, pour ne pas dire qu'elle était en tête. Des choses très simples, hein, puisque Clarence Perry l'a dit à l'époque, l'école doit être la capitale de mon quartier, c'est ce qu'il fait à Anne Hidalgo. L'école est la capitale de mon quartier, et vous voyez donc ce qu'on appelle la rue pour les écoles, c'est-à-dire qu'en face des écoles, il y a des rues qui maintenant ne sont plus pour les voitures. Il y a 280 écoles à Paris, maintenant on a dû dépasser les 210 rues devant les écoles dans lesquelles il n'y a plus de voitures, c'est devenu de l'espace public pour jouer. Une chose par rapport à Clarence Perry, qui est un de nos inspirateurs, vous savez que Clarence Perry, quand il a proposé ça, cette note que vous avez parfaitement évoquée, il n'a jamais pu appliquer ce concept-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois lobbies qui se sont opposés. Ah. Les lobbies des voitures, les lobbies du pétrole qui alimentaient les voitures et les lobbies du ciment. Parce qu'à l'époque, 1930, ils sortaient les grands tours uniquement pour travailler et les zones résidentielles uniquement pour vivre. Et donc, ce concept est resté théorique, comme bien beaucoup d'autres.
Mathieu Noël sur France Inter.
Et si la bataille contre la pollution passait par la ville du quart d'heure? C'est en tout cas ce que propose notre invité, l'urbaniste Carlos Moreno. Carlos, je rappelle votre livre, Droit de cité de la ville-monde à la ville justement du quart d'heure. On parlait de Paris tout à l'heure et je vous posais la question, vous avez l'air très content de ce qu'a fait Anne Hidalgo. Est-ce que néanmoins on est encore dans une phase transitoire? Parce qu'aujourd'hui on est quand même loin d'une ville sans voiture. Il y a encore beaucoup de voitures et surtout beaucoup d'embouteillages. Est-ce que, alors c'est peut-être une période transitoire justement parce qu'il y a eu ces changements qui ont été faits et on attend une période plus heureuse où enfin il y aura moins de voitures.
Je pense que c'est une question tout d'abord des mentalités, c'est-à-dire les citoyens que nous sommes. Mmh. On a été habitués pendant pratiquement un siècle, là, les voitures, la première voiture Henry Ford en masse, ça, 1923. Donc quasiment pendant un siècle, on a été biberonnés aux tout voitures. Les statistiques de l'enquête ADEM de la mobilité, il est dit 52% des placements en voiture, c'est pour faire moins de 6 km. Donc on a l'habitude de prendre la voiture pour un oui et pour un non. Et quand on dit qu'il faut pas prendre sa voiture, on crie tout de suite, on va attendre ma liberté individuelle, mes droits civiques, attention, je vais à la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour demander que j'ai le droit d'avoir une voiture tout seul, une tonne, et que j'ai le droit de polluer tout le monde.
Oh, une tonne, vous êtes gentil, maintenant elles sont encore plus lourdes,
voilà.
Les voitures.
Et pas uniquement le CO2. Le pire des voitures, y compris les électriques, c'est les particules fines, des points 1.5, 1 point. J'ai pas beaucoup de cheveux, mais dans 100 cheveux, vous en avez 250 qui s'écollent. Rien que la respiration, vous avez ce qu'on appelle les silent killers, les tueurs silencieux. C'est-à-dire qu'à l'horizon de 2 ans, 3 ans, 5 ans, bah vous savez, de la morbidité qui se développe. Donc il faut que notre cerveau, notre mentalité évolue à ce niveau-là.
Je ne suis pas spécialiste, mais les particules fines, c'est surtout les moteurs diesel quand même, non? Tous les moteurs ou moteurs diesel?
Vous avez deux sources. Vous avez les moteurs diesel, bien sûr, et vous avez une autre source qui est méconnue des grands publics, et j'en profite.
Les freins?
Les freins.
Le freinage.
Voilà. Les mélanges des disques de freinage avec les pneus et la route. Ça produit une poussière avec des particules fines en suspension qui vont donc être prises à la respiration par tous les passants qui se trouvent sur le côté.
Donc en ville, l'électrique n'est pas pour les voitures n'est pas la solution miracle parce qu'il y aura toujours ce problème du freinage et des pneus.
Effectivement, les voitures électriques ont tendance à freiner également donc avec les vitesses, mais ces problèmes existent. Mais quoi qu'il arrive, les voitures électriques ne sont pas la solution percée par rapport à la problématique de la mobilité, c'est plutôt avoir des services. Pourquoi on se déplace? Pourquoi on a besoin de se déplacer autant?
Quentin,
c'est une bonne pub pour vous que Anne Hidalgo revendique vos travaux parce qu'elle n'a pas une cote de popularité, surtout sur ce qu'elle a fait de Paris. Si vous arrêtez les gens dans la rue, peu sont
Elle contents. Est quand même maire de Paris.
Oui,
elle a été réélue.
Oui.
Elle est maire de Paris et qu'on le sache, en République, quand on est élu jusqu'à les derniers jours, les dernières de son mandat.
Mais à l'extérieur de Paris, elle a une cote très défavorable.
Oui, mais elle n'est pas maire de l'extérieur de Paris. Elle est maire de Paris. Donc, c'est le problème. Et vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est que nous vivons à Paris. Il y a la métropole du Grand Paris, il y a la région d'Île-de-France. Mais puisque vous me tendez la perche, la région Île-de-France, la présidente, elle s'appelle Valérie Pécresse. C'est quoi son programme stratégique, les RIF-E, les schémas des développements régionaux de l'Île-de-France, tirés eux comme environnement. Ah. Son programme, il s'appelle l'Île-de-France des 20 minutes.
Ah bah tiens, elle aussi.
Elle l'a présenté en juillet 2013 et il vient d'être de nouveau donc présenté. Et quand Valérie Pécresse, elle m'a autorisé à le dire d'ailleurs, donc je ne la trahis pas, elle a dit, mes conseillers ne voulaient pas que je présente l'île des France des 20 minutes parce que j'allais faire de l'hidalguisme. Il a dit, je l'ai fait parce que j'ai fait du morénisme.
Ah bah c'est bien. Alors c'est bien rattrapé.
Mais on parle de Paris, de l'île de France, mais comment marche la ville du quart d'heure à la campagne ?
Très bonne question. Vous avez la question de la campagne, c'est, et on le voit avec les crises des Gilets jaunes, on le voit aujourd'hui, c'est l'absence des services. C'est l'absence non seulement des services publics, mais des services tout court. Et donc, quand les Gilets jaunes, la crise s'est produite, ça a été lié en fait à que la moyenne des déplacements, c'est 45 minutes en voiture, souvent des mères seules, avec la problématique familiale, et que la taxe carbone a augmenté, les prix de l'essence, etc. Donc, ce qu'on appelle les territoires de la demi-heure visent à rapprocher des services tout au long de ces lieux pour avoir plus de services publics, plus d'emplois, plus de circuits courts, plus de matières premières qui soient locales. Et donc, vous avez même de toutes petites villes. Saint-Hilaire-de-Bretma, si mon ami Jean-Michel Perret, le maire, m'écoute, il y a 5000 habitants dans cette commune entre Avignon et Alès. Lui, c'est un des pionniers. Mais il y a la ville d'Essette m'a appelé pour la remonter, les Sicoval à Toulouse. Et il y a des villes moyennes. J'étais l'invité de la Assemblée générale des villes moyennes françaises il y a une semaine. C'est entre 20 000 et 5 000 habitants. Parce que ce concept, il offre quelque chose de plus, c'est la résilience. Vous avez eu Kirk, la dépression.
Oui, la dépression.
Comme on a eu Boris en Europe centrale. Aujourd'hui, on a Hélène, Johnson, c'est pas les potes qu'on invite à un nouveau barbecue. Ce sont vraiment des situations. Quand il n'y a plus rien qui tourne, quand les routes sont coupées, quand les trains sont coupés, quelle est la meilleure résilience? C'est la proximité. Ça s'appelle la proxilience.
La proximité.
Oh non, attendez,
on fera un nouveau mot. Attendez, Carlos, un nouveau mot. Un mot par émission, pas plus. Ici, on rentabilise. Journée spéciale contre la pollution sur France Inter, l'occasion de se réécouter le jingle de cette opération, visiblement réalisée avec la complicité de notre invitée de mardi dernier, Marie-Monique.
Aujourd'hui sur France Inter. Journée spéciale. On respire.
C'est bon de respirer, surtout visiblement Quentin avec votre tasse Lucie Gallou. Avec le bruit des cigales. Quentin, vous êtes allé interroger les gens sur la ville du quart d'heure, dans la rue et plus spécifiquement dans mon quartier.
Oui, non loin du boulevard Magenta, Paris 10e. Est-ce que ce serait pas le parfait exemple de la ville 15 minutes chrono? Ce monsieur, garçon scooter, je m'approche, il est encore casqué.
Salut.
Je vous arrête, alors je suis pas flic. Hein.
Bah non, vous avez pas une tête de flic. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis chasseur immobilier.
Je vous laisse enlever votre casque?
Ouais, c'est plus pratique pour discuter. Alors je demande à Patrick, la soixantaine, s'il connaît...
Ah, la ville du quart d'heure, c'est quoi? Le modèle d'une ville où les services essentiels sont à la distance d'un quart d'heure. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ce truc-là, ouais. D'accord, tout à un quart d'heure. Mais tout à un quart d'heure comment? À pied, en vélo, en scooter?
Que mobilité douce.
Moi, je suis en mobilité, une grosse mobilité douce.
C'est quoi, ça? C'est un tank
BMW électrique.
Ouais, ouais, les engins électriques, même imposants, rentrent-ils dans le projet? On y répondra. En tout cas, Patrick, vous a la bonne, Carlos Moreno.
Je trouve l'idée superbe, qu'on puisse avoir tout proche et donc rendre la vie des gens simple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... plus loin que 15 minutes, il y a plein de trucs à faire. Et on a le droit d'y aller si on veut y aller. On y va.
Le Corbusier avait planché sur un... Il y a à Marseille, d'ailleurs, il y a encore un bâtiment de Le Corbusier qui est une ville...
La cité radieuse.
Où, sur chaque étage, il y avait école, terrain de sport...
Et de toute façon, c'est une idée... tout mettre à 15 minutes, on peut imaginer un enfer comme on peut imaginer un paradis. Qu'on accuse... comment il s'appelle ?
Carlos Moreno,
de vouloir enfermer les gens, c'est parce que les gens qui pensent à ça ont peut-être cette sale idée dans la tête.
Exact. Les critiques...
Il
les compare à celles que l'on a pu entendre à Paris il y a quelques années.
À Paris, quand j'ai vu le vélo commencer à arriver, tout le monde gueulait, tout le monde râlait. Bon, ça continue toujours à gueuler. Il y a toujours une gêne quand on a envie de bien faire les choses, d'amener quelque chose de positif. Moi, je suis un dingue de cette ville. J'adore Paris. Paris, c'est une ville qui bouge, qui change. Moi, je suis très contente de ce que fait Anne Hidalgo. C'est une femme qui est énormément critiquée, mais je trouve qu'elle a vraiment osé mettre des choses en place comme ça, comme le vélo. Regardez, il y a des vélos partout. Il n'y avait pas ça il y a 10 ans. Hein. Génial, bravo.
Elle passe devant moi, elle. Elle s'appelle Léa. Elle rentre d'un voyage.
La ville du quart d'heure.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça?
Non. La ville du quart d'heure est le modèle d'une ville et tout service essentiel. Moi, je vis à la campagne, en fait. Je vis à Poitiers, enfin, à côté de Poitiers, ordinairement. Mais du coup,
Poitiers, c'est la ville du quart d'heure. Pas trop.
Non, pas trop, mais justement, je trouve que c'est une bonne idée. Plutôt que d'agrandir cette agglomération, parce que Poitiers, c'est une ville qui est en train de s'étaler sur les campagnes, justement. Exact. Je trouve que c'est mieux de concentrer au sein d'une même ville plutôt que d'étendre.
Eh oui, les agglomérations qui s'étirent partout en France, ce serait le contre-exemple du projet. Pascal passe devant moi, veste noire, sacoche d'ordinateur en cuir, il découvre...
La ville du quart d'heure. Je sais pas, le titre d'une pièce de théâtre. Il y aurait qui dedans? Isabelle Carré. Parce que j'adore Isabelle Carré.
Bah ouais, bah franchement ça colle, Carlos, on monte la pièce, Cyril contacte Isabelle, on est bon, c'est une copine. Bon, je lui explique à Pascal le modèle d'une ville où tous les services essentiels sont à une distance d'un quart d'heure à pied ou à vélo, et là Pascal il souffle.
Ah, vous soufflez?
Oui, je souffle.
Parce que c'est les vélos qui me font souffler. Alors c'est pas l'utilisation du vélo, hein, soyons clairs, je n'ai rien contre le vélo. L'attitude de la majorité des cyclistes vis-à-vis des piétons, ça a donné à cette ville une agressivité. Vous voyez dans les yeux des cyclistes, quand ils vous regardent, je vais passer, je te laisserai pas passer. Nous ne sommes ni des Hollandais, ni des Suédois, ni des Finlandais. On sait très bien que les Français ne sont pas disciplinés.
Vous imaginez une ville du quart d'heure? Va falloir faire de la pédagogie, hein.
Vous êtes obsédé avec une ville du quart d'heure, vous.
Oui, désolé, c'est le thème de l'émission. Ces piétons, je vous jure, c'est des coups à ne pas freiner, hein, quand on croise Pascal. Mais revenons quand même sur l'idée.
Ben, c'est à la fois de la praticité et une forme de conduite un peu grégaire de la vie en commun, quand même. Enfin, sinon, on est un peu en vase clos, sinon.
On traverse, c'est vert.
Allez, on traverse.
Attention aux cyclistes.
Moi, je voudrais prendre Madame Hidalgo par la main en lui disant « Écoutez, moi, je suis piéton. Tous les jours, je sors dans Paris et tous les jours, je marche. Vous allez venir une semaine avec moi. Vous allez voir, c'est un enfer de traverser. Ça vous gâche l'existence. » Voilà.
Sauf quand vous rencontrez France Inter.
Ah, bah évidemment. Un jour, j'ai dit à un cycliste « Vous voulez vraiment nous exterminer, hein ?» Et là, il m'a regardé. Et là, j'ai pas été très gentil. Je lui ai dit « Écoutez, vous avez deux yeux, deux bras, deux jambes, deux roues, mais vous avez deux neurones. »
Et tac.
Ah, j'étais content, hein.
Quel personnage. Mais qui traduit quand même une vraie question. On voit que c'est compliqué la cohabitation des mobilités douces qui ne sont pas toujours aussi douces. Alors la ville du quart d'heure sera-t-elle si paisible que ça? Je vais réfléchir. 15 minutes, pas plus, promis.
Excellent. Mais tout est sorti, c'est égal, hein.
Et alors, Carlos Moreno, je rappelle votre livre « Droit de cité de la ville monde à la ville du quart d'heure ». Vous êtes l'inventeur de cette notion de ville du quart d'heure. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, beaucoup de choses intéressantes dans ce micro-trottoir. Quentin, la vision de Pascal est peut-être un peu caricaturale, mais moi j'ai déjà beaucoup entendu ça sur ce côté cohabitation entre les différentes mobilités. Piétons, mobilité douce, vélo et automobilistes. On a l'impression que peut-être, effectivement, il faudrait peut-être créer une sorte de code de bonne conduite. On est peut-être un peu novice en France quand même là-dessus.
Oui, c'est vrai. Si on reste sur Paris, bien qu'il y ait d'autres villes aussi qui sont dans cette approche, il est clair que on a évoqué, Anne Hidalgo en a parlé, le code de la rue, par exemple. Et le code de la rue, c'est des nouveaux comportements. On l'a vu avec les trottinettes. Les trottinettes étaient un élément extrêmement perturbateur parce qu'il y avait énormément d'indiscipline, parfois mortelle, malheureusement. Et donc, les trottinettes ont été effectivement enlevées, en tout cas celles des opérateurs. Donc, moi, je dirais qu'il faut faire appel. Effectivement, le monsieur disait, les Français, on sait qu'ils n'ont pas discipliné, etc. C'est vrai qu'il faut embrasser d'autres codes des cultures urbaines qui, dans lesquelles on est plus de connivence, on est plus de zénitude, on est sur une zen, donc on va s'arrêter sur les zen.
Tout à fait.
Mais on va faire un zoom sur la zénitude. Ah. Donc sur le fait qu'il faut changer notre comportement par rapport à notre présence dans l'espace public, quel qu'elle soit le type de mobilité qu'on puisse y avoir.
Quentin. Je me suis amusé avec les gens, mais Patrick, il parle du projet de Le Corbusier, la cité radieuse à Marseille, vous l'avez relevé, cet immeuble ville, mais ça n'a pas fonctionné finalement.
Non, ça n'a pas fonctionné parce que Le Corbusier était très ambigu dans son positionnement. J'ai énormément étudié, je pense que c'est assez public. Et donc, l'architecture de Le Corbusier, les fondateurs de l'architecture moderne, malgré qu'il y a eu la cité radieuse, elle s'est caractérisée par une devise... La cité, la ville qui a des succès, et la ville qui va vite et qui va loin. Ce qui a fait que on a développé ce qu'on appelle les zoning, qui a été le cœur de l'urbanisme du XXe siècle, c'est-à-dire la zonification. On met des lieux dans lesquels on se concentre pour travailler, des lieux dans lesquels on est heureux quand on habite des lieux dans lesquels on s'activait culturel, et ça s'est traduit, la zonification, par les longues distances. Les cas concrets à Paris, 1961, on a créé la Défense. Mmh. Les plus grands quartiers d'affaires d'Europe, à millions de mètres carrés. Et donc, en 1962, c'est-à-dire l'année d'après, les verges sur Seine sont devenues deux autoroutes pour relier les gens qui étaient à l'Est par rapport aux gens qui étaient à l'Ouest. Et on a créé, combien? 300, 400 km de bouchons par jour? La ligne A du RER et la ligne 1 du métro, 1,2 million de passagers par jour, des Est en Ouest, la plus congestionnée de toute l'Europe.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
L'architecture et l'urbanisme, voilà des domaines où la créativité fait loi. Oui, ni l'architecte ni l'urbaniste ne peuvent se reposer sur leur laurier, il leur faut sans cesse innover, un peu comme moi, avec le Zoom Zoom Test, où jamais, au grand jamais, je ne me permettrai de recycler des questions. En tout cas, celui qui le signalerait se verrait immédiatement enlever un point. Jouons au Zoom Zoom Test. Un quiz consacré aujourd'hui à ces projets d'aménagement urbain auxquels on a heureusement échappé, et à ceux qui, hélas, se sont fait ou vont se faire. On commence en 1936. Cyril vient de fêter son 20e anniversaire au Procope, entouré de ses amis Léon Blum, Aragon et Jean Zay, qui lui remontent le moral car il vient de rompre avec Arletty. À la une des gazettes ce soir-là, une information fait beaucoup parler à un projet fou. D'après vous, Manon Quentin, en quoi consistait le projet de l'architecte André Badevant ? Il voulait piétonniser les quais de Seine pour faire une piste vélocipédique, l'ancêtre de la piste cyclable. Il voulait créer une rampe carrossable pour accéder en voiture au deuxième étage de la Tour Eiffel. Ou il voulait créer une cité flottante sur la Seine qui aurait permis d'accueillir les réfugiés climatiques.
B.
C. Je pense que c'est B aussi, mais que réfugié climatique. Je vais dire c'est ouais, non.
En 36. Pensez, Quentin, qu'on puisse venir en voiture.
J'ai vu des plans de ça, moi, qui tournent autour.
Vous avez vu des plans de ça?
Oui.
Vous aviez fumé quelque chose ou...
Ah non.
Non, vous les avez vus?
Ça existait.
C'est une bonne réponse de Quentin, lui, oui. Wow. André Badevant s'était juste trompé d'époque. En 1970, Pompidou aurait certainement validé son projet. Une rampe pour accéder en bagnole au deuxième étage de la Tour Eiffel. Pratique pour éviter la queue aux ascenseurs. Il avait imaginé une rampe en colimaçon, comme dans les parkings souterrains. C'était beau, c'était pratique, ça s'intégrait merveilleusement à l'œuvre original, et pourtant quelque chose a coincé, mais quoi, on ne le saura jamais. Attention, top! Nous sommes à présent en 1962. Cyril vient d'être grand-père pour la première fois, et un projet urbanistique étonnant est dans les tuyaux, celui de l'urbaniste Paul Mémon, qui propose ni plus ni moins que de créer un 21e arrondissement de Paris. D'après vous, à quoi a-t-on échappé au juste en 1962? À un projet de 21e arrondissement à Bagnolet? À un projet de 21e arrondissement au-dessus du 20e arrondissement, ou à un projet de 21e arrondissement en dessous de la Seine?
C'est
A.
Bagnolet, pour vous, c'est la pire. Pour vous, la pire
j'ai
chose.
Pas dit, c'était la pire.
La pire chose qui aurait pu exister, c'est un 21e arrondissement non. qui aurait été Bagnolet. C'est ce que vous dites?
C'est ça la question?
Pas du tout.
Voilà.
La réponse, c'est bonne réponse de Quentin. Lui, une fois de plus, oui. Ce 21e arrondissement.
Attendez, vous voulez la vérité? Je me souviens du quiz, c'était il n'y a pas si longtemps que ça.
Ah, si, c'était il y a au moins. Oh,
ah,
déjà.
Il l'a recyclé.
Ah, ouais,
mais n'écoutez pas ce qu'il dit, Manon.
Ça, je devais pas être là.
C'est dommage, Quentin, vous perdez ce point que vous veniez d'inscrire. Effectivement, réponse C, le 21e arrondissement aurait été situé sous la Seine, comme dans le film culte de Thomas Croisière sur Netflix. L'urbaniste Paul Mémon présente ce projet d'aménagement complètement dingue.
Bon,
écoutez, 12 niveaux sous la Seine, avec des parkings, des parcs, des magasins, des bureaux et même un abri anti-atomique. Selon lui, 3 millions de personnes auraient pu y vivre. Ils auraient peut-être manqué un peu de vitamine D, mais ils auraient pu. Hélas, ce beau projet de souplex fluvial n'a jamais vu le jour. Mais attention, car le quiz
entre
maintenant...
Alors que sous la Seine, si.
Ah, sous le... Oui, malheureusement. Très beau film de Thomas Croisière. Attention, car le quiz entre maintenant dans une autre dimension. Une dimension où votre vivacité intellectuelle et vos neurones déjà passablement émoussés par les excès du week-end vont être mis à rude épreuve. Ce moment du quiz où tout s'accélère et où, pour tenir le rythme, vous allez être obligé de taper dans le pochon de Marie-Monique. Doucement quand même, Quentin. Oh. Une narine à la fois seulement. Oh. Ce moment de haute intensité, vous le connaissez, c'est le moment des questions en rafale. Top. Oh. Dans l'histoire des politiques de la ville, qu'est-ce qui aurait pu voir le jour place de la Bastille? Un coq géant? Un éléphant géant? Ou un dinosaure géant?
Ah.
Ou pas, j'en ai aucune idée.
B.
C'est bien, parce que disons, le quiz était recyclé.
C'est clair. Ah, c'est...
Oui.
Ah.
B.
Ah. Oh, c'est mignon, un petit coq, un coq gaulois.
Oui.
Réponse B, c'était un éléphant géant. Évidemment, c'est Napoléon lui-même qui, en 1812, avait porté ce projet dit du gros éléphant qui devait trôner place de la Bastille, projet qu'il avait confié à un certain Alavoine. Les travaux avaient commencé, Victor Hugo en parle dans Les Misérables, bande d'incultes.
Daniel. Mais,
effectivement, suite à la disparition d'Alavoine, le projet est tombé à l'eau, foutu Paris-Dakar. C'était écrit, Quentin. On a échappé à une gare sur la Seine.
Vrai.
Faux.
Enfin, maintenant, ne soyez pas idiote. Une gare sur la Seine.
Mais si, ça veut dire que c'est vrai.
C'est complètement con. Non, non, c'est faux.
Ah bon ?
Vrai ou faux ? Vrai.
Mais vous venez de me traiter d'idiote, ça va
mais pas du tout.
Non, mais je pensais que c'était ironique.
On dirait.
Se calmer.
Mais bah non, vous avez la chance de vous rattraper. Vrai ou faux ? On a échappé à un aéroport sur la Seine.
Vrai.
Oh oui,
ah, une piste,
oui, oui, oui. Et il était prévu à l'emplacement actuel de l'île aux Cygnes, tout près de la Tour Eiffel, une grande piste d'atterrissage avec juste en dessous les salles d'enregistrement.
Qu'est-ce qu'il y a, Quentin ? Vous l'avez vu encore ?
Juste en face.
Tout près de chez nous, un projet farfelu qu'on doit à l'architecte André Lursa. Enfin, vrai ou faux, la chapelle du Père Lachaise devait initialement être une mosquée.
Faux.
Faux.
Faux. Tu m'as une réponse. Mais ça devait être quoi ?
Ça rien,
ben. J'invente une question.
Question ouverte, question ouverte.
Une pyramide. Et oui, c'est le problème de l'urbanisme, les amis. C'est qu'on est victime des modes de son temps. Or, en 1810, l'architecte Alexandre Théodore Brongniart était très influencé par les campagnes napoléoniennes en Égypte. Il s'était dit qu'une pyramide, ça serait chouette dans le plus grand cimetière parisien. Heureusement, alors qu'il avait obtenu l'accord de la mairie, Brongniart a entendu la petite voix de son arrière-arrière-petit-fils, Denis, qui lui disait
« Prenez votre sac. » Allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre.
Il a compris le message, il a tout annulé. La pyramide a cédé la place à une chapelle bien de chez nous. Encore un projet saugrenu auquel on a échappé. Victoire de Quentin, lui.
Bah oui.
Et c'est assez... assez en fait, rare pour être souligné.
Faites-les deux fois, ça va être mieux pour moi parce que j'ai une bonne mémoire.
Je pense qu'il va falloir faire ça une fois par mois, je pense. Ouais. Un quiz recyclé qui vous permettra de gagner.
Oui.
Non, n'exagérez pas, vous savez, j'ai le sens du devoir bien fait.
Et du travail, oui.
La journée contre la pollution continue sur Inter et dans Zoom Zoom Zen, on zoom sur la ville du quart d'heure avec l'inventeur du concept, l'urbaniste Carlos Moreno est avec nous cet après-midi. Concepteur de la ville du quart d'heure, donc, on l'a dit, mais aussi du territoire de la demi-heure. Votre concept, celui de ville du quart d'heure, en tout cas, il n'a pas plu à tout le monde. Carlos, on en parlait hors antenne. Vous avez même été la cible de gens qui vous accusaient d'être liberticide. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que ça, vu de France, ça paraît assez dingue, cette histoire.
Oui, en fait, ce concept, comme vous avez pu le dire, est devenu mondial. Donc, on s'est emparé de ces concepts en Angleterre. Donc, à Oxford, ils ont voté un plan pour réduire la place de la voiture dans les centres-villes. Donc, ça s'appelle Low Traffic Neighborhood, la réduction par des caméras pour éviter que les voitures rentrent, mais... Les plans étaient votés en même temps au Canada, à Edmonton, à côté de Toronto. Et en Argentine, on a fait ce qu'on appelle las calles verdes, des rues. Voilà. Donc, il s'est avéré que les mouvements, ce qu'on appelle le complotisme international, ils se sont dit les mêmes concepts qui est appliqué un peu partout.
C'est
par
un
Colombien qui habite à Paris.
C'est étrange.
Ces gars-là, il est à la solde de Soros, du Forum économique mondial. Et donc, on m'a mis sur le dos le fait que je voulais que les gens restent dans leur quartier.
Ce qui n'est pas l'idée.
Que j'allais mettre des puces électroniques sous la peau avec les Covid, avec des vaccins. Que ça allait tilter dès que les gens traversaient la rue en quittant l'endroit où ils étaient. Que j'allais mettre des tickets de rationnement. Et que j'étais donc un mélange de Pol Pot, de Hitler, des camps de concentration. Il y a des photos qui ont circulé de moi avec des camps de concentration. Ah, et oui. Ça a enclenché des menaces de toutes sortes, des menaces de mort. J'étais sous surveillance policière. Et bon... Heureusement que ce mouvement, on va dire, dans les urnes, a été battu de manière totale, parce que toutes les listes qui se sont montées un peu partout, et pour aller à l'encontre des mesures concernant l'automobile, ils ont été battus, et le mouvement par lui-même. En France, il y en a certains à Paris qui ont voulu en profiter.
Il y a eu Saccage Paris, notamment, à une époque.
Voilà, vous l'avez dit, qui m'ont attaqué, mais finalement, ça n'a pas prospéré. Ça serait très difficile de dire qu'à Paris, on met les gens en cage.
Oui, ça serait un petit peu dur. Parmi les exemples de villes du quart d'heure qui semblent bien engagées, il y a celui de la ville chinoise de Xiongan. Je ne sais pas si je dis bien Xiongan, comment on dit ? Vous savez dire ?
Xiongang.
Xiongang, voilà. Un district entièrement construit par le gouvernement pour désengorger Pékin. Une ville qui est annoncée comme ultra technologique, mais aussi une ville justement bâtie sur le modèle de la ville du quart d'heure. Ça va dans le bon sens aussi ?
Oui, en fait, en Chine, il y a eu 52 villes qui ont été mises en place sur la forme d'un master plan qui a été fait à partir de mes travaux à l'origine dans la ville de Chengdu. Mais là-bas, il faut faire les tri entre le vrai projet qui cherche à faire une ville beaucoup plus humaine, beaucoup plus verte, sans voiture, dans laquelle on peut marcher, et des projets urbanistiques avec des énormes tours dans lesquels les gens ils sont complètement en cage à lapin. Donc effectivement, et mes travaux là-bas, ça s'appelle les cercles de vie des communautés des 15 minutes, parce que les Chinois, ils rallongent tout, donc on rajoute les hirondelles et les montagnes bleues dans un lac, voilà, pour que ça fasse... Voilà. Et ça a pris une certaine ampleur. Pourquoi ? Parce que les villes chinoises aujourd'hui on ne peut plus respirer. Mmh. Quand vous allez prendre un café à Shanghai, votre serveur, il va vous amener non seulement le café, mais la mesure des taux de pollution. Donc, c'est en permanence.
Ah, d'accord.
Et donc, à Beijing, on est aujourd'hui à 10 périphes. Donc,
c'est les quoi, villes 10... sont... l'équivalent de 10 périphes.
Il y en a 10. Il y en a 10.
Ah, il y a 10 périphes. Il y en a physiquement 10.
Il y en a 10, voilà. Donc les distances se rallongent. Et donc, bon, là-bas, c'est pas une démocratie, donc c'est le Parti communiste qui décide.
Mais il décide d'aller dans ce sens-là.
Ça a décidé de mettre en plan des promotions des petites villes, c'est-à-dire entre 1 million et 2 millions d'habitants. Qui est plus de
des
place. Petits,
des villages, des, comme on des... les appelle là-bas. Et vous écoutez France Inter, il est 16h46. Et Manon Mariani, la personne à suivre, est un pote de Carlos Moreno.
Je vous présente Carlo Ratti, il a 53 ans, il est italien et il est architecte. Vous le connaissez bien, Carlos Moreno.
Absolument.
Mais je vais le présenter à ceux qui sont moins familiers de ses travaux. Carlo Ratti travaille au prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology, où il dirige son propre département, l'un des principaux centres de recherche consacrés à la ville et aux nouvelles technologies. Pour lui, l'environnement urbain peut aujourd'hui évoluer grâce aux avancées technologiques. Les deux sont même compatibles et de nouveaux environnements sont à portée de main. Au MIT, il a travaillé sur pas mal de projets qui vont dans ce sens. Il y a par exemple The Copenhague Wheel qui utilise les vélos comme moyen de mesure pour par exemple capter le taux d'humidité autour de soi. Il y a aussi le projet Trash Track, oh là, c'est difficile à dire, Trash Track, où il utilise des trackers pour voir où vont réellement nos poubelles et donc nos déchets. Le projet est une première enquête sur la compréhension de la chaîne des délocalisations dans les zones urbaines. Et puis, il a aussi imaginé un projet assez atypique, le Paris Navigating Gym, je l'aime bien celui-là, un bateau sur la Seine qui abrite une salle de sport, sauf que sa propulsion est assurée par l'énergie fournie par les utilisateurs des appareils de cardio training. Donc, plus ils font du sport, plus ils alimentent le bateau, pas le choix de pédaler, c'est peut-être ça la solution pour se mettre au sport, finalement.
En ce qui vous concerne, oui.
Exactement. Vous l'avez compris, Carlo Ratti a un mot d'ordre, l'optimisation. Pour lui, chaque action doit pouvoir servir à améliorer notre environnement et notre façon de vivre. Sa vision se rapproche de ceux qui vantent les mérites des villes intelligentes, des villes qui seraient capables d'améliorer les conditions de vie des citadins en s'appuyant sur la technologie. Carlo Ratti est toutefois plus nuancé. Pour lui, la ville intelligente ne pourra exister qu'avec des citoyens intelligents. Et pour ça, il faut aussi intégrer les problèmes sociaux à cette réflexion. Notamment les questions sur les inégalités. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne au sein d'une ville et il faut le prendre en compte. Il aura l'occasion d'exposer encore plus sa vision du monde du futur à grande échelle puisque Carlo Ratti va diriger la Biennale d'architecture de Venise en 2025.
Merci beaucoup Manon pour ce petit plus. Après la ville du quart d'heure, la chronique d'une minute. Pierre Fourade et son esprit de synthèse arrivent pour vous résumer tout ce qu'on s'est dit. Ce sera le petit carnet de Zoom Zoom Zen et puis bien sûr on rira avec l'humoriste préféré de ma femme, Marine Leonardi. Bonjour Marine.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes un peu fatiguée aujourd'hui Marine?
Bah oui, j'ai mis 50 minutes à venir.
C'est le problème.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Il fait tout, absolument tout, en une minute chrono. Au grand dam d'ailleurs, au grand dam de son conjoint. Le fait que son mariage tienne encore après 4 mois est un miracle. Pierre Fourade, bonjour.
Bonjour, c'est peut-être parce que je viens de Lourdes que c'est un miracle.
Oh là là.
La réponse à tout. Pierre, comme chaque après-midi, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute, comme dirait Cyril, oméga en main.
Top chrono, alors la ville du quart d'heure, c'est tout simple. Hein. C'est une ville dans laquelle on peut tout faire à pied, à vélo ou en transport en commun, à moins de 15 minutes de chez soi. L'idée a été conceptualisée par notre invité lui-même, l'urbaniste Carlos Moreno. Pour lui, il faut pouvoir travailler, s'éduquer, se soigner, s'épanouir et s'approvisionner au plus près de là où on vit. Un projet largement repris par Anne Hidalgo dans son programme municipal en 2020, mais aussi par des villes comme Milan en Italie ou Valence en Espagne. Tout le monde veut son quart d'heure de gloire. Valérie Pécresse, de son côté, veut aller plus loin et propose la région des 20 minutes, battue sur le fil par Carlos Moreno qui parle désormais du territoire de la demi-heure, un concept mieux adapté au monde rural. Les avantages d'une telle organisation de la ville et du territoire en général, c'est évidemment de réduire la place de la voiture qui s'en retrouverait quasiment inutile, remettre des services publics, favoriser les circuits courts et finalement réinventer une vie de quartier pour créer une ville heureuse, d'après le terme de Carlos Moreno qui parle même de la proximité heureuse pour généraliser son propos. L'inconvénient, c'est évidemment qu'en un quart d'heure à Paris, à vélo, on se fait insulter 15 fois en moyenne par les automobilistes. Si à terme la ville du quart d'heure pouvait à la fois nous débarrasser de la pollution et de la mauvaise humeur, on pourra construire une statue à Carlos Moreno en matière recyclée, évidemment.
Merci Pierre, c'était court mais c'était bon, comme dirait votre partenaire. La ville du quart d'heure, un concept qui malgré tout n'aura pas convaincu Marine Leonardi. Marine, pour vous, la ville du quart d'heure, c'est rien de très neuf.
Bah, en effet, le nouveau concept à la mode, donc, c'est la ville du quart d'heure. Le but, comme on le disait juste avant, c'est de pouvoir tout faire en 15 minutes à pied ou à vélo. 2024 et on vient d'inventer le village, voilà, bravo. Ah, on s'est trompé, le budget, c'est pas Dubaï, c'est Moustier-Sainte-Marie. Magnifique, 15 ans d'études pour nous sortir. Ce serait bien quand même si on passait pas 45 minutes dans les RER A, hein, les pieds dans la piste, coincé entre un mec qui dort et un autre qui se branle à 7h23 du matin. Non mais pardon, mais qui vit dans une ville où tout est à 15 minutes? Je pose la question. Sauf si tu t'appelles Apolline, que t'as ouvert un atelier de poterie participative et que ton mec bosse dans le vin nat. Même France Inter, je me tape 50 minutes de ligne 9 pour arriver dans un bâtiment de 30 étages qui ressemble à un anneau gastrique. Et tout en haut, le Mathieu Noël qui reçoit des invités, ça papote sur la ville de proximité, le vélo électrique et la trottinette gonflable. Mais vous vivez dans un autre monde! La ville du quart d'heure, c'est quand t'es riche. Là, oui. Là, t'as ta salle d'escalade, ton café bio, ton bar à cordon bleu. Hein. Les trois appartiennent à Augustin, 37 ans, qui a réussi à convaincre de coriaces investisseurs, papa et maman. Bah là, c'est sûr que c'est sympa, tu marches dans un Instagram 3D. Non, Carlos Moreno vous proposait d'optimiser aussi l'usage des bâtiments, par exemple les boîtes de nuit qui deviendraient des salles de sport le jour. Mais c'est une évidence. Qui n'a pas envie de faire des abdos dans une odeur de tequila renversée et une plaque de vomi? Déjà pour décoller le pied du sol, tu as fait ton sport de la journée. Vous proposez aussi des marchés dans les cours d'école. Ah, ça, j'aime bien. Non? Comme ça, le samedi matin, ça met une petite ambiance, tu vois. Ah ouais, tu veux pas ranger tes jouets, Siméon? Eh ben, je vais te déposer à l'école, tu vas voir. Et bim, tu l'enfermes dans sa salle de classe pendant que tu fais le tour des petits producteurs. Carlos Moreno, c'est passionnant en réalité, hein, votre histoire de proximité, ville apaisée, multimodale. Mais bon, vos deux exemples, c'est Anne Hidalgo et Saint-Hilaire-de-Bretma. Hein. C'est un peu comme si je lançais une crème de jour et que mes égéries, c'était Elisabeth Borne et Régine, tu vois. Ou alors, si je lançais un dentifrice et que mes égéries, c'était Zaz et Benjamin Tranier. Ou alors, si qu'on je embrasse. Lançais des préservatifs XXL et que mon égérie, bah, c'est Cyril Lacarrière. Oh. Voilà.
Peut-être votre dernière chronique.
Il reste encore 9 exemples à faire. Valérie Pécresse se revendique aussi de votre école de pensée, puisqu'elle a dit, je cite, « Je ne fais pas du Hidalgo, je fais du Moreno. » Alors, moi, je vous avoue que la première fois, j'avais mal lu, j'ai lu « Je fais du Morano.
Wow. » Oui.
Là, j'ai eu très peur, j'ai lu la phase 3 fois. Je me suis dit, et en même temps, ça explique pas mal de choses, hein, notamment la coupe de cheveux. Non, mais c'est vrai, faut arrêter avec la langue, Valoche, hein, elle tourne la tête, la frange, elle bouge en différé. C'est pas possible. Et puis bon, la distance dans les grandes villes, je rappelle quand même que c'est notre excuse pour ne pas voir les gens. Hein. Non mais moi, quand je veux annuler un dîner, j'alterne entre la petite est malade et désolé, je suis coincée dans les bouchons, ça avance pas. Mais si tu fous tout le monde à 15 minutes de moi, je fais comment? Non, je vous jure, moi j'ai déjà expérimenté la proximité, ça s'appelle le Touquet Paris Plage. Voilà. Non, je vous le dis, mon mari, il a grandi là-bas, je peux te dire qu'à chaque fois qu'on bouffe dans un resto, je me retrouve coincée entre son ex et la meilleure amie de sa mère, hein, les deux étant la même personne, à savoir Brigitte Macron. Après, Paris, c'est déjà la ville du 15 minutes. Hein. 15 minutes pour attendre le métro, 15 minutes entre les stations, 15 minutes pour évacuer le corps sur les voies, 15 minutes à la caisse du supermarché. Le seul truc qui dure moins de 15 minutes dans ma vie, je vous le dis, c'est mon mari. Voilà. Lui, il est dans la ville du 5 minutes. Hein. Une minute de pré-lit, de 3 allers-retours et bonne nuit. Apparemment, il est prêt pour le futur. Voilà. Non, je vous laisse. Moi, j'ai une heure de RER puis métro pour rentrer chez moi. Mais ça me permet de lire un bouquin et de prendre du plaisir assise, de trucs que je ne fais plus si souvent allongé.
Merci beaucoup, Marine Lénardier. J'aurais noté tout début de votre chronique que donc Cyril Lacarrière prend le RER A. Vous reportera au début de la chronique pour comprendre pourquoi. Merci beaucoup Marine, vous êtes en tournée dans toute la France et il vient de la comprendre avec votre spectacle Mauvaise Graine. Toutes les dates et billetteries pour 2025 sur marineleonardi.com. Merci beaucoup Carlos Moreno, je suis désolé, ça a filé à toute vitesse avec vous, c'était passionnant. Vous retrouvez toutes les idées de Carlos dans ce livre Droit de cité, de la ville monde à la ville du quart d'heure. Vous à la maison ou sur votre vélo cargo moustache, puisque je ne vous imagine pas nous écouter en voiture, ce serait une insulte au travail. Absolument. De Carlos. Zoom, zoom, zen.